Donc, on va commencer Bezrat Hashem, comme on a dit, la lettre numéro 12. D'accord ? Donc, on est à la page. La lettre numéro 12, c'est la page.
232.
Voilà, 232. Vaya Maaseh.
Tu te bêtes, 233.
Voilà, 233. Vaya Maaseh Tzedakah Shalom. Donc, ça, c'est un verset qui est écrit dans Iov. Dans Yeshaya, pardon, dans Isaïe. Et qui dit comme ça. Il dit, Vehaya, et ça sera, le salaire de Maaseh Tzedakah. Le salaire de l'action de la tzedaka, shalom, sera la paix. Et avodat tzedaka, alors que le salaire du travail de la tzedaka sera ashket ou vetar, la tranquillité et l'assurance, adolam, jusqu'à la vie. Donc c'est un verset de Isaïe qui parle apparemment, c'est apparemment aussi une prophétie. Et dès le départ, c'est un verset qui est assez curieux. Parce qu'apparemment, dans ce verset, il te dit, tu as l'action de la tzedaka, et tu as le travail de la tzedaka. Et il te dit, l'action de la tzedaka amène la paix. Le travail de la tzedaka amène la tranquillité et l'assurance jusqu'à la fin des temps. Donc nous, ce qu'on veut comprendre, c'est quoi la différence entre l'action de la tzedaka et le travail de la tzedaka. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'action de la tzedaka, qu'est-ce que ça veut dire le travail de la tzedaka. C'est un verset dans Yeshaya. Donc on va essayer de développer ça. Donc ça veut dire « ashket » ou « vetar adolam ». On va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que « ashket » ou « vetar adolam », ça amène la tranquillité. Bonsoir, avec sa mère. Ça amène la tranquillité ad olam, ad vitam aeternam. Donc la question qu'on se pose ici, les havin, pour comprendre, a efresh sheben maase le avoda. On veut comprendre quelle est la différence entre l'action de la tzedaka et le travail de la tzedaka. Si je vous posais la question en français, quelle est la différence entre l'action et le travail?
L'action c'est donner, le travail c'est ramasser.
Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Il y en a pour qui c'est ça, la fête de Hanouka chez...
Ouais, j'ai reçu.
C'est pas la fête de tout le monde, c'est...
Julien a David de l'envoyer, celle-là.
J'ai reçu...
Julien a David d'envoyer un petit mini.
Et je l'ai reçu de là. Alors, donc, quelle est la différence entre l'action et le travail?
L'action, c'est de donner, le travail, c'est de redistribuer.
Alors, a priori, c'est la même chose.
C'est la même chose, bon, l'action...
Parce que qu'est-ce qu'on fait dans le travail? Quand on va travailler, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'action. Donc l'action et le travail, c'est la même chose. Quelle est la différence entre les deux? Et en plus, tu m'as dit que un il amène, on parle ici d'un passage de Yeshaya, de Isaïe, qui explique qu'il y a une différence entre l'action de la tzedaka et le travail de la tzedaka. L'action de la tzedaka amène la paix. Le travail de la tzedaka amène, on a dit, la tranquillité et l'assurance jusqu'à la fin des temps. Donc on a dit, c'est quoi d'abord, avant de comprendre c'est quoi la différence entre la paix et la tranquillité, il faut d'abord comprendre c'est quoi la différence entre le travail et l'action. Alors il dit comme ça. Il dit ve ben shalom l'ashket vevedar. Donc on veut comprendre aussi la différence qu'il y a entre la paix et la tranquillité. Pareil, ça aussi, c'est la... Si je vous pose la question, quelle est la différence entre la paix et la tranquillité?
Quel rapport?
D'accord? Comme par exemple quelqu'un il me casse les pieds. Je lui dis, excusez-moi du terme, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Quelle est la différence entre les deux? C'est la même chose, a priori. Si tu me demandes de me donner la paix, c'est-à-dire que tu me laisses tranquille. Ben non. Ce qu'on voit ici dans le pasouk, qu'il te dit que c'est pas le même salaire. Pour l'action, on donne la paix. Et pour le travail de la tzedaka, on donne la tranquillité. Donc, quelle est la différence entre l'action et le travail? Quelle est la différence entre la paix et la tranquillité? C'est ce qu'il va expliquer ici. Alors, comme d'habitude chez les juifs, pour répondre à cette question, on va passer complètement à un autre sujet. Ça, c'est le but en vérité ici. Et on va répondre à la question. On va comprendre ça. Alpi, machamrou, rabotenu, zichronan, livracha. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce pérec-là, puisque ça a un rapport avec Hanouka. Alors, on est dans Igaret HaKodesh 12, page 233. Donc, Yuvan, on va comprendre, on va comprendre ça. Alpi, machamrou, rabotenu, zichronan, livracha. Selon ce que nos chachamim ont dit. Alpasouk, sur le pasouk, osé shalom, libromav. Donc là, maintenant, on va essayer de parler de la définition du shalom. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on a dit que l'action de la tzedaka amène le shalom. Donc d'abord, on va comprendre qu'est-ce que c'est le shalom. Après, on va comprendre qu'est-ce que c'est l'action, qu'est-ce que c'est la tranquillité. Mais d'abord, on va s'arrêter sur le mot shalom. C'est quoi le shalom? Nous, quand on entend le mot shalom, on dit, shalom, c'est la paix. On dit, attends, doucement. On dit shalom, on va comprendre ce que ça veut dire. C'est écrit comme ça. Les chachamim, ils expliquent dans le Midrash Rabbah que pour savoir ce que c'est le shalom, il faut savoir comment Kadosh Baruch Hu fait les choses. Il dit que Kadosh Baruch Hu, des fois, il doit faire le shalom entre les anges. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a entre les anges? Il dit comme ça. Ki Michael, sar shalmaim, ve Gabriel, Sar Shel Esh. On sait que chez les malachim, on a plusieurs catégories de malachim, plusieurs groupes de malachim. On a des malachim qui représentent la bonté, on a des malachim qui représentent la rigueur. On a des malachim qui représentent l'eau, on a des malachim qui représentent le feu. Normalement, quand on a le feu, l'eau et le feu, il doit toujours avoir un qui est plus fort que l'autre. Soit le feu est plus fort que l'eau, donc le feu va évaporer l'eau, soit l'eau est plus forte que le feu, et l'eau va éteindre le feu. C'est toujours un combat éternel entre l'eau et le feu. Dans notre vie de tous les jours, il n'y a pas de shalom entre l'eau et le feu. Il ne peut pas avoir de shalom. Il y a toujours un qui sera plus fort que l'autre. Le problème qu'il y a en haut chez les malachim, c'est que on a le malach Michael, comme on va expliquer tout de suite, qui représente la bonté qu'on va comparer à l'eau. On va expliquer tout de suite pourquoi. Et l'ange Gabriel qui est comparé au feu. Et le problème, c'est quoi? C'est que les deux, ils sont tellement forts que personne ne peut éteindre l'autre. Donc il va être obligé de faire le shalom. Et là, on va parler d'un vrai shalom. Pas un shalom comme nous, on a que tu l'as écrasé l'autre, t'as dit, voilà, je t'ai écrasé, tais-toi maintenant. Non, c'est pas du shalom, ça. Tu l'as écrasé, bon, ben, bien sûr, tu l'as écrasé, il se tait. C'est pas du shalom, ça. Ça, c'est, tu l'as écrasé. Il est hors concours. On est d'accord? C'est pas ça, du shalom. C'est quoi, du shalom? Du shalom, ça veut dire que chacun, il va rester a priori sur sa position. Parce que chacun est aussi fort que l'autre. Et va rester aussi fort que l'autre. Et pourtant, on va réussir à s'entendre. Et ben ça, explique le Midrash, il dit c'est ça quand on dit dans le Osé Shalom, Bimbromav. Dieu fait le Shalom, Bimbromav, dans ses cieux, dans le ciel. C'est quoi le Shalom que Dieu fait dans le ciel? Le Midrash te dit c'est ça. C'est que dans le ciel, on a l'ange Michael, on a l'ange Gabriel. L'ange Michael qui représente l'eau, l'ange Gabriel qui représente le feu. Et un ne peut pas éteindre l'autre. Ça veut dire que les deux sont aussi forts les uns comme les autres. Que l'Omar, on va expliquer maintenant ce que ça veut dire. Chez Michael, l'ange Michael, Sar Shel Chesed. On sait que l'ange Michael, souvent dans notre filote, on invoque, surtout dans les filotes de Rosh Hashanah, etc., on invoque l'ange Michael. L'ange Michael, c'est l'ange qui représente le Chesed, la bonté. Or, la bonté est comparée à l'eau. Vous savez pourquoi? Quel rapport entre la bonté et l'eau?
C'est l'abondance, c'est... Parce que déjà la bonté, je sais pas, c'est naturellement, même le bébé,
en vérité, la notion est très simple. Vraiment. Quelle est la différence entre la bonté et la rigueur? La bonté, c'est donner. La rigueur, c'est, au contraire, c'est retirer. Ça veut dire ne pas donner, se retirer. On voit exactement ça quand on remarque l'eau et le feu. L'eau, par définition, descend. Ça veut dire qu'elle vient des montagnes, elle vient d'en haut. L'eau descend. Donc si elle descend, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que l'eau, c'est la symbolique de l'eau, c'est donner, la bracha. Alors que le feu, c'est quoi? Le feu, il monte. Ça veut dire quoi? Il monte. Ça veut dire qu'il retourne. Ça veut dire qu'on ne te donne pas, on te reprend quelque chose. On va consommer quelque chose, on te reprend quelque chose. Donc, l'eau...
En même temps, oui. sans le feu, il y a
bien pas... sûr, il faut les deux. Voilà. C'est ainsi. Donc l'eau est comparée à quoi? L'eau est comparée à la bonté. Le feu est comparé à... la rigueur. L'ange Michael, on a dit que c'est l'ange de la bonté. L'ange Gabriel, dans le mot Gabriel, on a le mot Gvoura. Gvoura qui veut dire quoi, David?
La rigueur.
Et donc l'ange Gabriel est comparé à quoi? Il est comparé au feu. D'ailleurs, vous savez, on retrouve ça. Je vais vous montrer dans la Tfila. Dit comme ça. Dans la Tfila du matin, quand on raconte les anges, juste avant le Shema, on dit... voilà... Alors, Veaofanim, Vechayot Akodesh, Beraash Gadol Mitnaseim, Leumat, Aserafim. On parle des Séraphim. C'est quoi les Séraphim? Séraphim, il y a le mot Srefa. Srefa en hébreu, ça veut dire quoi, David? C'est quoi une Srefa? Srefa. En hébreu moderne, c'est quoi Srefa? C'est un incendie. C'est des anges qu'on appelle les incendies.
Les incendiaires.
D'accord, pourquoi? Pourquoi on les appelle les incendies? Parce qu'on dit comme ça, on dit d'un côté, d'un côté, tu as les premiers malachim qui sont calmes, mais nachad ruach. C'est quoi nachad ruach? Nachad ruach, c'est le calme. C'est la tuile du matin, regardez, on dit comme ça. On dit, Vechula, Mekablim, Alem, Lokosham, Izem, Notim, Bavar, Eshut, Zelazel, Lehagdish, Liotram, Ben nachad ruach. Première catégorie d'anges qui sont Ben nachad ruach, qui sont calmes. D'accord? Mais Slafa Verura, qui parle explicitement, ou Vinirimak et Decha, avec une chanson qui est douce. D'accord? Kulam, qui est Echal, tous ensemble, Onim Behema, Veomrim Behira, tous ensemble, ils chantent avec la crainte de Dieu et ils disent avec la peur Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ça, c'est un premier groupe d'anges qui représente, c'est les blonds, c'est les malachim. D'accord? C'est les malachim qui sont là, qui sont carrés, qui sont tranquilles, doucement, calmes.
Les turbulences, c'est
du coup. Après, de l'autre côté, Tu as fait Ophani, mais Chalut Akodesh, t'as les animaux. Mais dans la Kdusha. Berach Gadol, avec un boucan énorme. Mitnasim, Loumat Aseraphim. Ils sont là constamment en train de brûler, ils sont chauds, ils sont bouillants. Et ça, on te dit que c'est les uns contre les autres. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Varour Kevod Hashem Imekomo. D'accord? Ça veut dire, ceux qui sont calmes, ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et ceux qui n'arrêtent pas de se brûler, pourquoi ils se brûlent? Parce qu'ils n'arrêtent pas de se consumer. Tellement ils ont soif d'aller vers un Kadosh par Ourou, qu'ils avancent, mais ils se brûlent parce que c'est trop chaud. Alors ils reculent. Mais après, ils avancent, ils se retapent un petit peu, ils avancent, ils se rebrûlent. Alors on dit comme ça. On dit que c'est quoi les séraphimes? Les séraphimes, c'est exactement, c'est l'ange de la Gvoura, c'est l'ange de la rigueur. Donc en vérité, on a toujours ce conflit constant entre les anges de la rigueur et les anges de la bonté. Donc, Chesed, Gvoura, Michael, Gabriel. Or, le problème qu'on a ici, c'est quoi? Donc, Vehu, Prinat, on reprend dans les mots, chez Michael. On va dire ensemble. Voilà. La ligne qui commence par Kelomar. Kelomar, ça veut dire. Chez Michael, l'ange Michael, c'est le Sar Shel Chesed. C'est l'ambassadeur, c'est le représentant du Chesed, de la bonté. Anikra, Beshamaim, le Chesed est comparé à l'eau. Pourquoi? A Yordim, parce que la nature de l'eau, c'est le descend. Mimakom gavo al makom namour. La nature de l'eau, c'est le descendre du plus haut possible vers le plus bas possible. On voit, quand on voit le cursus de l'eau, on voit que l'eau va venir depuis le haut des montagnes, ça va descendre. Ça va passer par la mer, je crois que ça va aller au fond de l'abîme. Ça veut dire que la nature de l'eau, c'est le descendre. Donc, qui dit descendre? Ça veut dire que ça vient du ciel vers les hommes. Vehu, prina tashpa veit pashtut. Pour nous, ça représente quoi, l'eau? L'eau, ça représente la bracha. L'eau, ça représente le don d'Akadosh Baruch Hu. L'eau, ça représente le chesed. Achayut me olamot elyonim les tartonim. Ça veut dire, c'est Dieu qui nous donne quelque chose.
Jusqu'à un certain point.
C'est ça, parce que je pense être comme toi, les tsunamis, les trucs comme ça.
C'est vrai. Bien sûr.
Avec le noir.
L'eau, ça peut être aussi la, mais on parle de manière générale. Ça veut dire, en général, l'eau, c'est la bracha. Le feu, c'est le contraire. Maintenant, il y a toujours des exceptions,
oui.
D'accord? Mais en général, l'eau, c'est la bracha. Ou prinat esh, alors que le feu, chez tivra la lot le mala, la nature du feu, c'est de monter en haut. Vous savez pourquoi le feu, il monte toujours en haut? Pourquoi le feu, il monte?
Il est attiré vers sa source.
D'accord? Le feu, on avait expliqué dans le chapitre 18 du Tanya, le feu est attiré vers... Oui,
oui, c'est ce qu'on avait...
Il est attiré vers sa source. On dit que la source du feu se trouve en dessous de la lune. En dessous de la lune, Maïmonide dit comme ça, il dit qu'en dessous de la lune, il y a une sorte d'aimant, comme ça, qui attire le feu. Et donc, quand la flamme, elle veut monter, en vérité, elle veut retourner à sa source. Voilà pourquoi une flamme, si tu l'attrapes pas...
C'est pas une explication physique, ça. C'est une explication spirituelle.
Bon, l'explication... Quoi qu'il en soit, on sait qu'une flamme veut monter.
Oui, non, mais d'accord, je pense que c'est pas une explication physique, la source qui est...
Non, ça, je sais pas si c'est expliqué physiquement.
Non, je pense que c'est spirituel, forcément.
Alors... Donc, la nature du feu, c'est de monter. C'est pour ça que le feu, si tu ne l'attrapes pas, à la Chanouka, si tu n'attrapes pas la flamme avec un combustible, qu'est-ce qui se passe avec la flamme? Elle s'en va. Où elle s'en va? Elle va où?
À sa source.
C'est-à-dire que la nature du feu, c'est quoi? C'est pas de rester, c'est pas de donner. La nature du feu, c'est constamment de retirer, de pas donner. C'est le contraire de donner. Ou prinat agvura veistalkut ashparat achaim imatalemala. Donc, c'est exactement le contraire de l'eau. L'eau, c'est la direction qui va du haut vers le bas. Le feu, c'est au contraire, le moins on en donne en bas, le mieux c'est. Donc on a exactement ici la bonté et la rigueur. Michael, Gabriel. Maintenant, c'est quoi le problème? Chez l'Olashpia, Rak Betimtsum Atsum Verav. Comme on voit le feu. On voit le feu, si tu ne l'attrapes pas, ça veut dire, si t'as une petite mèche, t'auras une petite flamme. T'as une grande mèche, t'auras une grande flamme. Ça veut dire que le feu, il va te donner pile ce que tu as demandé. Pas un gramme de plus. Tu vas dire, ça va, je t'ai fait une petite flamme, donne-moi une grande, je t'ai fait une petite mèche, donne-moi une grande flamme, qu'est-ce que ça te coûte? Non, ne mange pas comme ça.
Ouais.
Le feu, c'est quelque chose qui est extrêmement rigoureux. Ça représente la rigueur. T'as une petite flamme, t'as une petite mèche, petite flamme. Grande mèche, grande flamme. Le problème, c'est quoi? C'est que Vehen, rappelez-vous, on veut parler ici, nous, du shalom. Donc, on dit que le shalom, ça commence où? Avant même que Dieu a créé le monde. Où on a le problème du shalom? Où on a le problème de Mahloket? En haut, les anges. Quand en vérité, il explique ici, il dit que les anges, c'est pas Kras Veshalom, ils sont en Mahloket pour se battre l'un avec l'autre. C'est qu'ils ne sont pas d'accord de la manière de servir à Kadosh Baruch Hu. T'as les anges avec Michael en tête, ils vont dire, nous on veut que Kadosh Baruch Hu donne à l'humanité. Et d'un autre côté, t'as les anges avec Gabriel en tête, qu'eux vont dire, nous on pense qu'il faut pas donner à l'humanité, il faut donner le strict minimum. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il est entre les deux. Et nous, on est en bas, on attend. Imaginez-vous, t'as un fonctionnaire qui dit qu'il faut tout donner, t'as un autre fonctionnaire qui dit qu'il faut rien donner. Mais non, ça doit passer par eux, parce que ça passe par eux pour arriver chez nous. Alors comment on fait? Si Dieu ne fait pas le shalom chez eux, on reçoit rien. Bah oui. Parce qu'ils sont en marloquette sur quoi? Pas en marloquette sur qui a raison, ils sont en marloquette sur comment va se passer, comment Dieu va nous donner. Alors comment on fait? Donc il explique ici, il dit Vehen, midot, negdiot, veofriot de l'azo. Ce sont des midot qui sont complètement contradictoires. Parce que le chesed dit il faut donner sans fin, la gvoura te dit non, il faut donner en s'arrêtant. Imaginez, vous mettez dans une maison, vous mettez un mari et une femme, le mari c'est quelqu'un qui veut claquer grave, et la femme elle est, c'est pas qu'elle est radine, mais elle, c'est pile l'inverse, ça veut dire elle dit non, chaque centime est calculé, ou le contraire. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Qu'est-ce qui se passe?
C'est un peu d'acteur. Hein.
C'est des femmes qui claquent.
Ça explose à la maison. Parce que tu peux pas. Tu peux pas avoir les deux en même temps, c'est soit l'un, soit l'autre.
C'est l'éponge.
Alors en général, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment, il y en a un qui va être plus fort que l'autre. Ou vice versa, le mari ou la femme. Mais sinon, si les deux restent aussi forts, et que les deux restent sur leur position, et que chacun est persuadé que c'est comme ça qu'il faut tenir la maison, et que chacun est persuadé, parce qu'en général, il y en a toujours un qui arrive à ramener la raison à l'autre.
Champ d'action, d'accord, on va dire.
Mais le problème avec les anges, c'est qu'il y a jamais un qui va être d'accord avec l'autre, parce que chacun est persuadé et a de quoi être persuadé. Donc imaginez une maison comme ça, dans laquelle tu as le mari et la femme. Le mari, il est sûr de son coup, la femme est sûre de son coup à 100%. Et le mari te dit, il faut calculer chaque centime, et la femme te dit, moi je te dis que pour le bien de la famille, il faut claquer. Et chacun est sûr de son coup. Qu'est-ce qui va se passer dans cette maison? Chaque chose, c'est le feu. C'est compliqué. Quel feu? C'est l'explosion. Tu mets deux forces contradictoires. Tu tires d'un côté, tu tires de l'autre. C'est pas possible, ça tient pas. Bah, Kadosh Baruch Hu a ce problème avec les anges. Il a une marloquette constante avec les anges. C'est pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Ah, Kadosh Baruch Hu, osé shalom benéhem. Akadosh Baruch Hu fait le shalom entre... Comment Akadosh Baruch Hu fait le shalom? C'est extraordinaire ce qu'il va expliquer ici. Il dit comme ça. Chez Chassidim, on amène un exemple. On dit une fois, on dit dans un... Il y avait un roi. Le roi, il a plusieurs ministres. Il a le ministre du budget. Et il a le ministre, par exemple, le ministre qui va s'occuper de la voirie. Par définition, le ministre s'occupe des militaires, d'accord? Le ministre de la Défense. Donc par définition, le ministre du budget, c'est quoi son but? C'est de restreindre au maximum le budget. C'est ça son travail. Le ministre de la Défense, par exemple, ou un autre ministre, c'est quoi son but? Son but, c'est au contraire de dépenser un maximum. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Les deux ministres vont constamment être en train de se battre. Le ministre du budget, il dit, attendez, il faut réduire, il faut restreindre le budget. Le ministre de la Défense va dire, mais non, pour défendre le roi, il faut claquer, il faut avoir les meilleures armes possibles et inimaginables. Donc ils vont se battre. Qui c'est qui peut faire le shalom entre les deux?
C'est le budget.
Mais non. Il y a un problème, c'est que les deux, ça veut dire, comme chacun est sûr de son coup, c'est vrai, en fait, ils ont raison. Le ministre du budget, son travail, c'est quoi? C'est de restreindre le budget. Le ministre de la Défense, son travail, c'est d'avoir les meilleures défenses possibles. Donc, a priori, c'est impossible de faire le shalom. Enfin, chez Rassilib, on dit comme ça. On dit, qui c'est qui va faire le shalom entre les deux? Le roi, il va les convoquer. Et quand les deux, ils vont être devant le roi, c'est là qu'ils vont réaliser, ils vont dire, attends, pour qui on travaille? On travaille nous deux pour le roi. Alors, il faut bien qu'on trouve un moyen de s'entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment, ils vont être les deux devant le roi. Ils vont réaliser qu'en vérité, ils travaillent pour le même but. Que tant qu'on n'était pas devant le roi, chacun y croyait. Un, il croyait qu'il travaillait pour le budget, l'autre, il croyait qu'il travaillait pour la défense. Donc chacun était en bataille avec l'autre. Mais dès qu'on arrive devant le roi, on comprend qu'en vérité, le budget et la défense, c'est un détail. En vérité, la vraie raison pour laquelle on travaille, c'est pour qui? C'est pour le roi. Donc, il faut bien qu'on trouve une manière de s'entendre. Eh bien, chez Chassidim, on dit c'est la même chose. Quand Akadosh Baruch Hu veut faire le shalom entre Michaël et Gabriel. Que si tu prends Michaël et Gabriel, tu les prends séparément. Un, c'est l'eau, l'autre, c'est le feu. Ils ne peuvent pas s'entendre. Alors, c'est quoi la seule manière de faire le shalom? C'est de les mettre les deux devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il les convoque les deux. Et là, quand les deux, ils sont devant Akadosh Baruch Hu, ils sont tellement éblouis, qui se disent, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose, on travaille pour le même Akadosh Baruch Hu, on travaille pour le même Dieu. On dit que c'est la même chose, chez Chassidim, on dit que c'est la même chose quand on parle de faire le shalom entre deux personnes. Quand par exemple, tu as deux manières de servir Akadosh Baruch Hu, t'as une personne qui va dire, moi d'après moi, pour servir Akadosh Baruch Hu, il faut faire ça, il faut servir comme ça, il faut servir avec la joie. T'as un autre qui va dire, moi d'après moi, il faut servir plus Akadosh Baruch Hu par l'étude de la Torah. Un autre qui va dire, moi d'après moi, il faut plus servir à Kadosh Baruch Hu par Ahavat Israël. Et chacun va expliquer ce qu'il dit. Chacun va t'expliquer à 100% sa shita, pourquoi sa shita c'est la meilleure shita. C'est quoi le problème? c'est que tant qu'on ne se présente pas devant Akadosh Baruch Hu, on ne pourra jamais faire le shalom. Parce que chacun est persuadé qu'il a raison. Et il a raison. Chacun a de bases très solides, de bases très fortes. À quel moment on fait le shalom? Quand on réalise qu'on travaille tous pour le même Akadosh Baruch Hu. Et là, on dit, attends, on ne travaille pas pour le budget, on ne travaille pas pour la défense, d'accord? Bonsoir. Ah, Razak, tu veux venir? Pas la kavod. Je me suis dit, avec l'opération, il ne va pas venir.
Non,
pas la kavod.
Attention.
Tu passes pas?
Si, mais alors non.
Non.
Alors, on disait comme ça. On a dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, il faut bien qu'on trouve un manière de s'entendre. Et on va s'entendre. Parce que comme on réalise qu'on travaille pour le même Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, tout prend des proportions différentes. Donc je reprends. On a dit Michael, c'est l'ange qui représente la bonté. Gabriel, c'est quoi le bruit là?
C'est le koum-koum, non?
Non, je crois pas. D'ailleurs, bon.
Le jour, ça faisait ça aussi.
Ouais. Ah, derrière, bon.
Mais bon.
Donc.
Je vais voir ça.
Il y a
une toilette
dans les toilettes,
c'est
pas
robinet
qui...
Non, je crois pas. Je t'en vais. Vous êtes derrière, non?
On dirait oui, ça. Ah, mais
derrière, ça. Pas chez nous, hein, d'accord. Non, je crois pas, c'est loin la cuisine.
Non, c'est chez moi
d'abord. Derrière, ok. Donc je répète, Michael, Jacques, on l'a dit, ça représente quoi? Ça représente la bonté. Gabriel, ça représente la rigueur. Et on a expliqué que par définition, Michael et Gabriel, est-ce qu'ils peuvent faire le shalom?
Non.
Ils ne peuvent pas faire le shalom. C'est impossible, parce que chacun est sûr de ce qu'il dit. C'est pas comme deux personnes que c'est une nature, que bon, c'est comme ça, et que c'est une mauvaise nature. C'est vrai, un claqueur, par exemple, quelqu'un qui claque. D'accord? Il sait au fond de lui que c'est pas bien de claquer. Donc quand t'as l'autre qui le ramène à la raison, qui lui dit écoute, faut se calmer, il dit bon, ça va, d'accord, t'as raison. Mais quand maintenant, t'as quelqu'un que par idéologie, il te dit il faut claquer. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui te disent par idéologie, il faut claquer.
La Gemara, faut cramer.
Il faut cramer l'argent.
Femme a dit ça.
D'accord? C'est vrai.
Ouais.
La Gemara a dit que quand on sait qu'il y a une crise qui arrive, il faut dépenser l'argent. Il y a un avis qui dit qu'il faut dépenser l'argent. Il y a un avis qui dit qu'il faut mettre l'argent de côté. Il y a un avis qui dit non. Il dit, tout le monde ne sait pas ce qui arrivera. Alors tant qu'à faire, t'as de l'argent maintenant, profite. Ça se tient.
Les deux se tiennent.
Les deux se tiennent. Le problème, c'est que quand tu mets les deux sous le même toit, ça explose.
L'idéal, c'est de faire les deux, de pouvoir faire les deux. C'est comme
tu peux pas faire les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Parce que le problème, c'est que les deux, ils ne sont pas. Il y a aucun qui est au milieu. Les deux, ils sont extrêmes. Et les deux, ils tiennent très fort à leur point de vue. Donc tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu fais? La solution, c'est de présenter les deux devant quelqu'un qui est plus fort qu'eux. C'est Akadosh Baruch Hu. Et quand ils vont se présenter devant Akadosh Baruch Hu, là, automatiquement, comme on a dit, ils vont réaliser qu'en vérité, on travaille pour le même Akadosh Baruch Hu.
Il y en a d'autres qui vont en Belgique? Il y en a qui craignent, il y en a qui sont en Belgique.
Oui, ouais.
Alors, il dit comme ça. Il dit, ah, l'Akadosh Baruch Hu, ben, ah, seulement, donc on est... Voilà, la ligne commence par Akadosh Baruch Hu. Quatre lignes avant la fin. Ah, Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom Benehem. Mais Akadosh Baruch Hu fait le Shalom entre eux. Entre Michael, entre Gabriel, entre l'ange de la bonté, entre l'ange de la rigueur. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Da'inu, ça veut dire. Aliede, Gilui, Shemit, Galé, Ba'em, Ahara, Rabba, Ve'ashpa, Atsuma, Me'ot, Me'or, Ensof, Asher, Kishmo, Ken'u, She'eno, Me'prinat, Midah, Hasve, Shalom. Qu'en vérité, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il va donner une lumière tellement grande que automatiquement, et Michael et Gabriel, ils vont se dire, attends, on a un Dieu tellement grand, il faut qu'on trouve une manière de s'entendre. D'accord? Ça veut dire, c'est comme ça, on dit que par exemple aussi, au Cheikh Hassid, on va donner cet exemple. On dit quand par exemple, tu as deux frères de la même famille, qui peuvent peut-être ne pas avoir la même nature. Un frère, il pense que c'est ça ce qui va faire plaisir à papa.
Il s'appelle Gabriel, l'autre, il d'accord s'appelle...
L'autre frère, il pense, il dit non. Ce qui va faire plaisir à papa, c'est ça.
Eric.
Et le problème, c'est quoi, hein? Le problème, c'est qu'ils ont une nature tellement différente que un, il va penser que ce qui va faire plaisir à papa, c'est ça. L'autre, il va penser que ce qui va faire plaisir à papa, c'est ça. Et ils peuvent pas s'entendre, c'est impossible. C'est même une source de marloquette. C'est-à-dire, c'est une source de conflit à chaque fois. Qu'est-ce qui va les calmer? C'est quand ils vont venir les deux devant papa. Et qu'ils vont réaliser qu'en vérité, on est les fils du même père et que, quelque part, on se ressemble, même si ça se voit pas, on se ressent, il faut bien qu'on trouve un moyen de parler. Et là, automatiquement, on va voir qu'on n'était pas si différent que ça. Pourquoi? parce qu'on a trouvé une force qui était plus forte que nous deux, qui nous a unis. C'est la seule manière. Si on reste comme ça, tel quel, c'est l'explosion. Il faut toujours trouver une force qui est plus forte que nous, qui va nous unir. Le rabbi, il disait ça aussi par rapport au Shalom Bayit. Il dit que quand, par exemple, dans un couple, on est des fois, c'est-à-dire c'est normal, il y a le mari qui a une position et la femme qui donne une position. On peut pas attendre que le mari va écraser la femme ou que la femme va écraser le mari, parce que chacun est persuadé de ce qu'il dit. Alors dire que un va convaincre l'autre, c'est pas bien, parce que quelque part, ça finira par revenir. C'est quoi la meilleure solution? La meilleure solution, c'est que le mari et la femme doivent essayer de réaliser qu'ils travaillent pour un idéal qui est plus important que celui du détail.
La construction.
D'accord? La construction. Et là, automatiquement, quand on réalise qu'on travaille pour quelque chose qui est plus important que tout ça, par exemple les enfants, par exemple le couple, par exemple, etc., ça veut dire on travaille pour quelque chose qui est plus important que ces détails, et bien automatiquement, ça nous aide à dépasser ces points de conflit. Exactement comme Michaël Gabriel. Qu'est-ce qui les aide à dépasser leur conflit? C'est le fait qu'ils réalisent qu'ils travaillent pour Akadosh Baruch Hu, qu'ils travaillent pour quelque chose qui est plus haut que leur petit conflit. Ve'azai, à ce moment-là, non, attends, excuse-moi. On est à...
Ah, Akadosh Baruch.
Ça, on l'a eu déjà. Voilà. Et là, les malamalades, qu'est-ce que ça fait? Mekor Trabad, Mekor Amidot. Voilà, on tourne la page. Afilou Mekrina Trabad, Mekor Amidot. Ve'azai, Amidot, Negdiot, Shel Michael ve Gabriel, Nichlalot, Vim Koran ve Shorshan, Ve'ayou la Chadim, Mamash, Uftelim, Ve'oroid Barer, Ameir la Mekrina Gilou. Voilà. Donc, ils ont en vérité, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, en fait, quand on va avoir Michaël et Gabriel, quand ils vont venir devant Akadosh Baruch Hu les deux, ils vont avoir une telle lumière que chacun va revenir à sa source. Et quand on revient à sa source, automatiquement, c'est là qu'on réalise qu'on n'était pas si différents les uns des autres. V'az, à ce moment-là, mitmazgim ou mitmatkim akvurot bachasadim. Automatiquement, vont se mélanger la rigueur et la bonté. C'est-à-dire que la bonté va devenir plus rigoureuse et la rigueur va devenir plus bonne. À l'idée prinat memutzaat, kav amachia ou matek la pechesed i midat arachamim. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi on parle de ça. Donc il dit, qu'est-ce qu'il y a entre les deux, entre chesed et gvura? C'est rachamim. C'est quoi rachamim en hébreu, David? C'est quoi rachamim? C'est la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? D'accord? C'est bon? Allez, messieurs. De l'autre côté, les téléphones. Alors, c'est quoi rachamim? C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est ce qui est pile entre la bonté et la rigueur. Je vais vous donner un exemple. On donne chez Chassidim, ça aussi. On dit comme ça. On dit, c'est quoi la bonté? La bonté, c'est par exemple quand tu as un parent qui ne sait pas regarder les défauts de ses enfants. C'est-à-dire que, il voit pas, il sait pas ce que c'est un défaut, il sait pas ce que c'est un problème. Mon fils, c'est le meilleur enfant de la classe. Il a aucun problème. D'accord? C'est le meilleur enfant du monde. Il voit pas le problème. Ça, c'est chesed. C'est la bonté. Il voit que la bonté. T'as d'autres parents, c'est le contraire.
Il voit que les défauts.
Il voit que les défauts. C'est malheureux, ça aussi. C'est-à-dire qu'il voit que les défauts. C'est-à-dire que le fils, il rentre de l'école. Il lui pose la question, quel effort t'as fait? Direct, il y a un problème. Hop, il y a un problème. Et les deux sont bons, parce que les deux veulent le bien de l'enfant. Très important, ça. Les deux veulent le bien de l'enfant. Et celui qui est chesed, et celui qui est gvura. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est que les deux, bien qu'ils veulent le bien de l'enfant, d'abord, chacun en soi n'est pas bon. Et la bonté n'est pas bonne, que la bonté n'est pas bonne, parce que si tu vois pas les défauts de l'enfant, tu vas pas les arranger. Mais d'un autre côté, voir que les défauts de l'enfant, c'est pas bon non plus, parce que l'enfant, tu vas le dégoûter. Donc déjà, chacun séparément n'est pas bon. À plus forte raison, quand tu mets les deux sous le même toit. Quand tu mets le père comme ça, la mère comme ça, d'accord? Par exemple, on va dire, la mère qui va dire, mon fils, c'est super ce que tu as fait, t'es le meilleur de la classe, et le père qui va dire, c'est le pire de la classe. Le fils, il est là, il comprend, il dit, mais attendez, expliquez-moi, je suis le meilleur de la classe ou je suis le pire de la classe? Il comprend pas. Donc, ni un va obtenir quelque chose, ni l'autre va obtenir quelque chose. Tu tires d'un côté, tu tires de l'autre, t'obtiens rien. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut rachamim. C'est quoi rachamim? Rachamim, c'est entre les deux. Rachamim, c'est ni comme chesed, ni comme gvura. Rachamim, c'est pas la bonté, c'est la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Ça veut dire qu'on va réaliser le défaut de la personne, mais quand même on va lui donner. La différence de chesed, c'est quoi chesed? Chesed, c'est je vois même pas le défaut. Mon fils, c'est le top, c'est le meilleur, il a aucun problème. Non, ça c'est pas bon. Gvura, c'est mon fils, il a que des problèmes. Ça c'est pas bon non plus. C'est quoi rachamim? C'est de dire, mon fils a un problème, donc gvura, mais je vais quand même lui donner. C'est le mélange entre chesed et gvura. Et c'est très difficile à avoir ça dans l'éducation. qu'on sait constamment à jongler, ça veut dire constamment à se dire, il y a un problème, mais on va le régler. Constamment à jongler entre le chesed et la gvoura, entre la bonté, parce qu'on aime nos enfants, et entre d'un autre côté la rigueur. Chesed, gvoura. Le mariage entre chesed et gvoura, c'est quoi? Le shalom entre chesed et gvoura, c'est quoi? C'est tiferet. Tiferet, c'est la miséricorde. C'est pour ça qu'on dit comme ça. On dit que tiferet, selon la Kabbalah, c'est composé de deux couleurs. C'est quoi les deux couleurs? Le blanc et le rouge.
Et le rouge?
Ouais. Pourquoi le blanc et le rouge? Le blanc, ça représente la...
pureté.
La chesed, la pureté. D'accord? C'est le blanc, c'est la clarté. Le rouge, ça représente quoi? La rigueur. Rouge, ça représente la rigueur. Et on dit que dans tiferet, dans la rigueur, dans la miséricorde, il y a deux couleurs. Il y a le blanc et le rouge. C'est comme dans une flamme. Quand vous prenez une flamme, qu'est-ce que vous voyez dans la flamme? Combien de couleurs il y a dans la flamme?
Rouge, jaune, bleu.
Il y a plein de couleurs dans la flamme. Qu'est-ce que représentent toutes ces couleurs? Tu as du blanc, tu as du rouge, tu as du bleu, d'accord? On le voit pas dans une petite flamme, mais quand tu vois un grand feu, tu le vois. Tu vois qu'il y a plusieurs couleurs. Parce qu'en vérité, ce qu'on explique ici, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qui fait la beauté d'une chose? Ce qui fait la beauté d'une chose, c'est quand il y a une harmonie, c'est quand il y a plusieurs couleurs. Je vais vous donner un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Regardez. Vous prenez par exemple la musique. Imaginez par exemple que je prends la musique et je vais appuyer 50 fois sur la même note. Est-ce que c'est joli comme musique? Non. C'est pas beau. Alors d'un autre côté, non, attendez.
Il y en a qui ont fait des tubes avec ça.
Ah oui.
Avec deux notes.
Il y en a qui ont fait des tubes avec ça, oui. Mais bon, normalement, pour les gens qui...
Bon, on va dire que c'est pour... pourquoi ils font des tubes? Parce que les gens, ils n'étaient pas capables de comprendre plus de trois notes, c'est tout.
Oui, oui. Donc, en attendant...
Donc, d'accord. Donc on a dit...
C'est millions de gens qui comprennent.
Qu'est-ce qui fait la beauté de la musique? C'est quand tu as plusieurs notes. Oui. Quand tu as une note, avec une autre note, on appelle ça une mélodie, ça veut dire quoi? C'est une harmonie. Ça veut dire que c'est ni une note à droite, ni une note à gauche, c'est plusieurs notes en même temps. Et les plusieurs notes vont former une mélodie. C'est ça ce qui fait la beauté. Qu'est-ce qui fait la beauté? L'harmonie. Ce qui fait la beauté, c'est l'harmonie. C'est le fait qu'il y a une note à droite, une note à gauche, on monte, on descend. Ça va un peu dans tous les sens. C'est ça ce qui fait la beauté. C'est une composition. Pareil pour un tableau. Pareil pour un vêtement. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un vêtement? Si tu prends un vêtement, il a une seule couleur. Bon, d'accord, c'est un vêtement, bon, c'est pas mal. D'accord? Alors, tu vas dire, t'en as un qui va dire, voilà, moi je veux un vêtement blanc. T'as un qui va dire, non, moi je veux un vêtement noir. Moi, je vais dire, le vêtement le plus beau, c'est quoi? C'est le vêtement qui va réussir à marier les deux couleurs.
C'est vrai.
Quand vous prenez un tableau, qu'est-ce qui fait la beauté d'un tableau? C'est le mariage des couleurs. On va te marier des couleurs, d'accord? On va te mettre une couleur marron, une couleur blanc, on va te marier les couleurs. Qu'est-ce qui fait la beauté des choses? C'est quand on marie les couleurs. Quand on prend deux choses qui sont contradictoires, et on te les met l'un à côté de l'autre, et c'est ça ce qui fait ressortir une couleur. Qu'est-ce que je vais vous montrer avec ça? Qu'en vérité, ni le chesed a raison, ni la gvoura a raison, ni le blanc a raison, ni le noir a raison. C'est les deux ensemble qui vont former l'harmonie, qui vont former le tableau, qui vont former la mélodie, qui vont former la beauté. C'est le contraste. Mais les deux ensemble. Pour former le contraste, tu dois avoir d'un côté le blanc, de l'autre côté le noir. Si t'as que du blanc, bon. Pour faire ressortir une couleur, il faut avoir l'autre couleur. D'accord? Et c'est comme ça qu'on fait ressortir les choses. Ben, c'est ce qu'il te dit ici. Il te dit ici qu'en vérité, la seule manière de faire le shalom entre Michaël et Gabriel, c'est de les mettre devant un Kadosh Baruch Hu, et quand ils viennent devant un Kadosh Baruch Hu, automatiquement, ils réalisent qu'ils font partie les deux d'un même tableau. Et que, non seulement qu'ils sont pas contradictoires, mais au contraire, ils sont complémentaires. Que dans un tableau, on doit avoir un contraste, et que c'est le contraste qui fait la beauté. S'il n'y a pas le contraste, il n'y a pas de beauté. D'accord? Vous savez, les peintres, les dessinateurs, ils jouent beaucoup avec ça. Ils jouent beaucoup avec ça, avec le mariage de couleurs, prendre deux choses qui n'ont rien à voir, pour marier deux couleurs, pour faire que une couleur qui n'a rien à voir avec l'autre, on va la mettre avec l'autre couleur. Par exemple, si vous regardez, j'ai ici un ciseau devant moi, d'accord? Là, j'ai ici un... Bon, il reste pas grand-chose, mais j'ai ici un fil doré. D'accord? Liseré. Qu'est-ce qui fait la beauté de ce fil doré? De ces liserés.
Il ressort sur le noir.
C'est qu'il ressort sur le noir. Si je l'avais mis maintenant, pas sur du noir, je l'avais mis sur du doré, ou sur du blanc, ça aurait pas été aussi joli. Là, pourquoi il est joli? Pourquoi il ressort? Parce qu'il est sur du noir. Donc il y a un contraste, donc il ressort. Donc, celui qui va dire je préfère le doré, celui qui va dire je préfère le noir, on va dire écoutez, les deux vous avez raison, mais c'est ni l'un, ni l'autre. Il faut les deux couleurs. C'est quand tu as deux couleurs, c'est comme ça que tu vas ressortir. Et ben, c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que selon la chassidoute, la notion de shalom, quand on parle de shalom bayit, shalom entre des amis, shalom entre des frères, shalom entre deux peuples, c'est quoi le shalom? Le shalom, c'est pas de dire que un va écraser l'autre et que un va comprendre qu'il a tort. Si on pense ça, on n'a rien compris.
Dire ça,
d'accord? Non, mais c'est vrai. Ouais. Quand on pense, c'est vrai, on se dit, on fait le shalom. On dit, on fait le shalom, on dit, bon, mais on fait le shalom, mais c'est moi qui ai raison. Hein. C'est ça que les gens ici disent. Fais le shalom, mais c'est moi qui ai raison. Non, c'est pas ça le shalom. Faire le shalom, c'est pas de dire que un a raison et l'autre a tort. Dans ce cas-là, c'est pas du shalom. Dans ce cas-là, t'as écrasé l'autre. Dans ce cas-là, t'as écrasé l'autre. Comprenez pourquoi on parle de ça, parce qu'après, on va expliquer la différence qu'il y a entre le shalom et la tranquillité. Vous voyez la différence? La tranquillité, t'as quelqu'un qui t'embête, tu le prends, tu l'écrases, tu lui donnes un coup de tête, tu le mets par terre, il va te laisser tranquille. Mais est-ce que t'as fait le shalom avec lui? Pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, il va peut-être se relever, et qu'il va se relever, il va se battre avec toi. Donc, est-ce que t'as eu le shalom avec lui? Non. Le shalom, c'est autre chose. Le shalom, c'est réussir à arriver à la conclusion qu'on n'est pas des ennemis, mais on est complémentaires. C'est très difficile d'arriver à cette conclusion. Surtout quand c'est exactement le contraire de ta nature. Très difficile, mais c'est possible. Ça, c'est le shalom selon la Torah. Le shalom, c'est quand on comprend qu'on est complémentaire. Pas chas v'shalom quand on va écraser l'autre. C'est ce qu'il dit ici. Donc, on est dans la page 234, on va tourner la page. Et donc, il dit, on va prendre la... Alors, on va prendre la sixième ligne. Anikret Bechem Tiferet. Donc ça, c'est appelé Tiferet. C'est quoi Tiferet? Le Bédivri Chachmé Aemet. Les sages de la Kabbalah appellent ça Tiferet. Les filles, Shehi, Kloula, Mi Bet Kvanim, Tiferet, elle est composée de deux couleurs. C'est quoi les deux couleurs? L'Oven, le blanc, Ve'adom,
le rouge.
Et le rouge. Ameramzim, qui font allusion, les Chesed, ou Gvura, qui font allusion à la bonté et la rigueur. Et c'est ça Tiferet. C'est quoi Tiferet? D'ailleurs, vous savez en hébreu Tiferet, c'est quoi la traduction de Tiferet?
Harmonie.
Tiferet, non, c'est pas que l'harmonie. Tiferet aussi, c'est la beauté. Ouais. C'est curieux parce que la beauté, c'est ni la bonté ni la rigueur. La beauté, c'est l'harmonie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait la beauté? C'est comme on a dit justement, c'est quand il y a le contraste.
Bonne combinaison.
Quand il y a une bonne combinaison, quand il y a un beau mariage. Ça, c'est un mariage. D'accord? Ça veut dire quand t'as un mariage, si tu maries deux choses qui sont les mêmes, ça ne donnera rien du tout, ça ne sert à rien. C'est pas ça. Un mariage, c'est quand tu as deux choses qui n'ont rien à voir, qui sont contradictoires. Et le mariage va faire la beauté. Mais la reine, c'est pour ça, hein. Selon le Zohar, Stam Shem Avaye Baruchu Shebechol HaTorah, le Zohar te dit que chaque fois que dans la Torah, tu retrouves le nom de Avaya, c'est-à-dire Yudke Vavke, donc Ado, Nai, More Almidat Atiferet Kemojaketub Zohar Akadosh. Le Zohar te dit que chaque fois que tu retrouves dans la Torah le nom Yudke Vavke, de quelle mida d'Akadosh Baruch Hu on parle? On parle de cette fameuse mida de Tiferet, cette force qu'Akadosh Baruch Hu a, qui est capable de marier les choses qui sont contradictoires. Une force extraordinaire, ça. Les filles, Shekan, ou Prinat, Gilui, Orensov, Baruch Hu, Ahara, Rabba, Beyeterset, Misham, Yosef, avec de Chotit Barer. Il te dit comme ça. Il te dit, tu sais pourquoi, en vérité, chaque fois qu'on dit le nom de Yudke, Vavke, le nom d'Akadosh Baruch Hu, on pense tout de suite à cette force d'harmonie? Il dit, parce que ça, c'est la mida la plus forte d'Akadosh Baruch Hu. Les autres choses, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu est bon, bon, on connaît des gens qui sont bons. C'est-à-dire, quand tu t'imagines la bonté d'Akadosh Baruch Hu, on connaît des gens qui sont bons. Quand on s'imagine la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, on connaît aussi des gens qui sont rigoureux. Ça ne nous impressionne pas. Ce qui nous impressionne, c'est la capacité d'Akadosh Baruch Hu à faire le shalom entre deux personnes qui sont contradictoires et qui vont rester contradictoires. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va réussir à Akadosh Baruch Hu? Il va réussir à faire en sorte qu'ils vont s'entendre les uns les autres. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, avec le ministre du budget et le ministre de la défense, qui vont réussir à s'entendre parce qu'ils sont devant le roi et qui vont se dire, finalement, on travaille pour le même roi. Et quand même, si moi, mon but, c'est de réduire le budget, et toi, ton but, au contraire, c'est d'exploser le budget, d'accord? Mais comme on travaille pour la même personne, alors il faut bien qu'on réussisse à s'entendre. Et ça, en vérité, cette force de faire le shalom, ça, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est capable de faire ça. D'accord? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est capable de faire ça. C'est ce qu'il dit ici. Alors, Ve'iné. Ok? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Ok? Donc, je reprends. On fait un résumé. On a amené un pasouk dans Yeshaya, dans Isaïe. Le pasouk a dit, Ve'aya ma'aseh atzaka shalom, ve'avodat atzaka ashkatu vetach adolam. Traduction. Le pasouk dans Isaïe a dit, c'est une perceuse, ça.
Ouais. Non, une perceuse, non. C'est
pas trop, là. Il y a une percussion là.
Non.
C'est une machine à laver, c'est tambour, une machine à laver.
Ah, bien vu.
C'est chez moi.
Hein?
C'est un gimmick. Non, mais c'est ça.
Ah ouais. Ah, bien vu. Hein.
Non, mais je sais, tu sais pourquoi je sais? Parce qu'ici on a une espèce de cellier, tu vois.
Ah oui, ça communique.
Et non, tout le monde met sa machine à laver là.
Ah oui, comme il y a quand vous essayez de dehors.
Tu vois, il y a
un. Comme un grand balcon, ouais, d'accord.
Ah ouais. Mais c'est bizarre, on n'entend pas la voisine.
C'est pas
la
même chose, j'ai fait du bruit. Ça me rappelle le bruit que j'entends des fois chez moi. J'ai compris maintenant. J'ai compris d'où vient le bruit chez moi.
Vous savez que chaque fois qu'on grince la selle ici, ils entendent dans tout l'immeuble, mais ils ne savent même pas d'où ça vient. Bah oui, parce que ça grince dans tout l'immeuble. Mais des fois, tu entends des gens qui tapent en bas. Parce qu'ils
sentent. Ils grognent des têtes. Ils ont...
Non.
Ils sont gentils.
Là. Non, parce qu'on fait attention aussi.
Bon, ouais, on fait attention.
On est prudent quand même.
Hein ? Oh non.
Ils auraient pu avoir une mosquée en bas. Hein.
Je reprends. Donc je reprends ce qu'on a dit. On a dit que le pasouk a dit comme ça. Il a dit ma'ased. On a dit comme ça. On dit il y a l'action de la tzedaka et il y a le travail de la tzedaka. Donc on a posé la question. Dans Yeshaya, il te dit comme ça. Il te dit l'action de la tzedaka amène le shalom. Le travail de la tzedaka amène la tranquillité. Donc il a posé deux questions. Il a dit d'abord quelle est la différence entre action de tzedaka et travail de tzedaka. C'est la même chose. Numéro 1. Numéro 2. Tu m'as dit, un, il amène la paix, l'autre, il amène la tranquillité. Bah, quelle est la différence entre la paix et la tranquillité? C'est la même chose. S'il y a la paix, il y a la tranquillité. S'il y a la tranquillité, il y a la paix. Alors, on va commencer à répondre à la deuxième question. On a dit, attention, doucement. Paix et tranquillité, c'est pas la même chose. D'où on sait ça? On dit, quand on parle de la paix, c'est écrit, Osé Shalom, Mimromav. Dieu, il fait le shalom dans le ciel. Le shalom entre qui et qui? Entre Michaël et Gabriel. On a expliqué longuement que Michaël représente le chesed, comme l'eau, et Gabriel représente la rigueur. D'accord ? La rigueur comme le feu. Et on a expliqué que normalement, ils sont contradictoires et ils sont tellement forts qu'aucun ne peut éteindre l'autre. On a expliqué, normalement, il y a toujours soit l'eau qui éteint le feu, soit le feu qui consume l'eau. Mais il y a toujours un qui est plus fort que l'autre. Et là, les deux, ils sont tellement forts. Imaginez-vous un incendie qui est tellement fort qu'aucun arrive à éteindre l'eau. Donc c'est la catastrophe. On peut rien faire. C'est impossible d'éteindre. Ni l'eau peut éteindre le feu, ni le feu peut éteindre l'eau. C'est la catastrophe. Et bien, c'est ce qui se passe en haut. Il y a toujours une machloquette entre Michaël et Gabriel.
Il disait donc le pasouk qui disait,
le pasouk qui disait, l'action de la paix, l'action de la tzedaka amène la paix,
et le travail
de la tzedaka amène la tranquillité. Donc on a posé deux questions. On a dit quelle est la différence entre l'action et le travail. Okay. C'est la même chose. Deuxième question, quelle est la différence entre la paix et la tranquillité. Si je dis à quelqu'un, fiche-moi la paix. Ça veut dire qu'elle le sait tranquille. Si je lui dis laisse-moi tranquille,
si
ça veut dire fiche-moi la paix. C'est la même chose.
Si t'es en paix, t'es
tranquille. Ce qu'on vient d'expliquer, ce qui est le pirouche magnifique a donné l'admor Zaken, il a dit que selon la chassidoute, la notion de shalom, ça n'a rien à voir avec la tranquillité. C'est quoi la tranquillité? La tranquillité, ça peut être par exemple qu'on va décider que, d'abord, soit un va écraser l'autre. Voilà, ça peut être le radical. Bah, un, il vient, crac, il écrase l'autre. Oui. Donc du coup, un va laisser tranquille l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a le shalom? Non. Je vous donne encore une autre option. Les deux, ils restent aussi forts, mais ils vont décider, ils vont dire, écoute, tu sais, la vérité, on avance comme ça, on n'arrive pas à avancer. Bon, pour notre bien, on va rester chacun sur sa position et on n'en parle pas.
Pas de différence.
Ça peut arriver dans un couple, ça aussi. Tu dis, écoute, on n'en parle pas.
Ou on fait un break.
On fait un break, voilà, on fait un break jusqu'au prochain voyage en voiture, d'accord? On fait un break.
Chacun
dans sa position.
On se revoit.
Est-ce qu'il y a la tranquillité? Oui. Mais est-ce qu'il y a le shalom?
Non.
Et on peut avoir la tranquillité. C'est possible que bon, on a un break pendant un mois, deux mois, trois mois, à l'œil. Non, mais ça tiendra pas trois mois, c'est sûr. Mais bon. Disons, on est d'accord? Donc, tu peux peut-être avoir de la tranquillité, mais est-ce que tu as du shalom? Non. À quel moment vient le shalom selon la chassidoute? Le shalom va venir quand les deux parties vont réaliser que chacun est indépendant pour l'autre. Et que chacun apporte quelque chose à l'autre et qu'ils sont complémentaires. Et que même si a priori on n'est pas les mêmes, eh ben on est complémentaires et moi je vais t'apporter quelque chose que toi tu peux, moi je vais t'apporter quelque chose que toi tu ne pouvais pas avoir et vice versa. Quand on a réalisé ça, c'est là qu'on peut commencer à parler de shalom. Tant qu'on n'est pas arrivé là, on peut pas parler de shalom.
Non mais là c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la parole.
Pas du tout. Là on te dit Akadosh Baruch Hu, il nous montre l'exemple.
Voilà ça.
D'accord. Exactement. Ce qu'on dit Osé Shalom Ibroma, Dieu qui fait le shalom dans le ciel, où il y a assez shalom. C'est lui qui nous aidera à faire le shalom, aleinu, sur nous, ve'alkol Israël, et sur tout Israël, ve'imru. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu nous montre l'exemple. Il dit, regardez, moi j'ai réussi à faire le shalom entre les deux plus grands ennemis, Michaël, Gabriel, et c'est des vrais ennemis, parce que chacun a raison. Chacun dit, mais moi j'ai raison. Un, il te dit, il faut servir Dieu par la bonté, l'autre dit, il faut servir Dieu par la rigueur.
Donc finalement, les tiférats, ça veut dire qu'il ne peut exister que s'il y a deux personnes
exactement.
Qui sont par nature opposées.
Exactement, c'est comme les couleurs. La beauté c'est du vêtement ne peut exister seulement si tu as deux couleurs, et plus elles sont contradictoires et contrastées, mieux c'est.
Pour ça, j'ai mis du rouge en dessous là.
C'est ça le truc.
Finalement,
ça veut dire finalement, bien, moins on s'entend avec sa femme, mieux c'est.
Non, disons qu'on tout oppose au départ, ça peut faire un beau mariage.
Exactement.
Mais à condition que trouver, comme tu dis, le but commun.
D'accord. Les plus beaux mariages sont les, sont les gens qui sont complètement contrastés.
Je me rappelle quand j'ai connu ma femme, elle voulait acheter une table ronde. Moi, je voulais acheter une table carrée. Et finalement, on a pris une table octogonale.
C'est bien.
Il a fait le shalom. Donc, un qui avait l'amida carré, l'autre qui avait l'amida rond. D'accord. Et finalement, on a fait le shalom entre les deux.
Plein de trucs comme ça.
C'est ça le shalom.
C'est bien. Ouais.
Le shalom, c'est quand chacun réalise qu'il y a quelque chose à prendre chez l'autre. Et l'harmonie entre les deux fait des choses extraordinaires.
Notre première table, je me rappelle.
D'accord. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, c'est ça le shalom.
Depuis la cloche Ferron. C'est tombé.
C'est très important à comprendre ça, parce que sinon on comprend pas qu'est-ce que c'est le shalom. C'est ça le shalom. Quand on fait le shalom, c'est pas quand on dit bon, écoute, il faut qu'on s'entende, on n'a pas le choix, alors reste comme tu es, je reste comme je suis, mais c'est pas grave, on n'en parle pas. C'est pas du shalom ça. C'est déjà très bien, c'est de la tranquillité, mais c'est pas du shalom. Du shalom, c'est quand il va avoir un déclic dans la tête, que je vais comprendre que il doit rester comme il est et je dois rester comme je suis et pourtant on doit s'entendre. Il y a un déclic à un moment qui va se dire, écoute, finalement on est complémentaires comme ça. Très difficile. Parce que, surtout, si je suis sûr de mes positions, et que je défends mes positions, et que mes positions tiennent la route, c'est très difficile d'accepter des positions contradictoires. Très difficile. D'accord? Vous savez, je vais vous raconter une anecdote qu'on raconte sur le Chafetz Chaim. On raconte qu'une fois, le Chafetz Chaim, il y a une fois un émancipé, quelqu'un qui est un peu, qui s'est éloigné de la Torah, qui est venu le voir, qui lui a dit, dites-moi, vous les religieux, Chaque rabbin, il fait son clan, il fait son truc, vous n'êtes pas capable de vous entendre, vous n'êtes pas capable de faire une religion pour tous. Vous voulez taquiner un peu le Chafetz Chaim, cette salle. Alors le Chafetz Chaim lui a répondu comme ça. Une très belle réponse. Il a dit, regarde, et tu vois l'armée, dans l'armée de la Pologne, il dit, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, et il y a les marines. Trois armées. Maintenant, tu vas demander à chacune des armées, tu vas demander à l'armée de l'air, tu vas dire, d'après vous, quelle est la composante la plus importante de l'armée? Qu'est-ce qu'ils vont te répondre? C'est les avions. D'accord. Tu vas demander à l'armée de terre. Tu vas dire, d'après vous, c'est quoi le plus important? Ils vont dire, oui, les avions, c'est facile, ils attaquent. Mais après, qui c'est qui nettoie? C'est nous. Tu vas demander aux marines, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont dire, le plus important, c'est nous. Nous, on est là, on est discret, on est en cachette, on fait des choses extraordinaires, on fait le travail secret que personne ne fait. Alors, qui a raison? Les marines? D'accord. L'armée de terre ou l'armée de l'air? Qui a raison? D'accord? Mais pourtant, chacun des trois est persuadé qu'il a raison. Il dit, qui a raison? Les trois ont raison. Seulement, c'est quoi la force d'Akadosh Baruch Hu? C'est que Akadosh Baruch Hu a trois armées. Maintenant, à chacune des trois armées, on demande d'être persuadé que c'est la meilleure armée. Parce que, si ceux qui sont dans l'armée de terre, ils vont dire, bon, de toutes les façons, c'est pas grave, le meilleur, c'est l'armée de terre, on dit, non! Vous avez failli à votre poste. Votre poste, c'est de croire que vous êtes les meilleurs. Oui. Chacun doit croire qu'il est le meilleur. Chacun doit croire que sans lui, la guerre ne tiendra pas. Et qu'est-ce qui fera l'harmonie de la guerre? Qu'est-ce qui fera que la guerre va marcher? C'est quand chacun va croire que je suis indispensable pour la guerre, et automatiquement, quand les trois mettront du leur, c'est là que la guerre va marcher. Il suffit qu'il y ait un des trois qui dise, c'est pas grave, il y a les autres. Yes. D'accord? Ça marchera pas. Chacun doit être persuadé qu'il est le meilleur. Et c'est comme ça.
Et qu'il est indispensable.
Et qu'il est indispensable, et que sans lui, la guerre sera perdue.
Exactement.
Alors, qui a raison? Les trois ont raison. Chacun a raison. Tu comprends ce que je veux dire, Serge? T'es avec nous? Chacun a raison. C'est ça, Tiferet. C'est quoi le shalom? Le shalom, c'est de comprendre qu'on a besoin de tous. Pas que, il faut s'écraser. Non, on a besoin de tous. Ah, c'est ce qu'il dit ici maintenant. Il dit, iné, itaruta, dil, aïla. Vous savez, iné?
Non, c'est ça.
La ligne commence par itbarer. La ligne commence par itbarer. Avec le juste après le point. Iné, itarut, adil, ela, le réveil d'en haut, le horaire, gilui, arabe, vashpat, suma, aniskarle, el, meurat, savaruru, la sot, shalom, aniskarle, el, hi, beitarut, adil, tata, ve maase, adzaka, vashpat, traim. Maintenant, c'est extraordinaire ce qu'il va dire ici. Il va dire ici, nous, quand on a lu jusqu'à maintenant le osé shalom, on s'est imaginé qu'il y a un spectacle qui se passe en haut, qu'il y a une guerre entre Michael et Gabriel, et que nous, on regarde le spectacle, et à un moment, t'as Dieu qui vient, qui dit, bon, hé, oh, ça y est, la marloquette, et qui fait le shalom entre Michaël et Gabriel en leur disant, vous êtes complémentaires. Viens, t'apprends la Mora Zaken, il te dit, en vérité, c'est pas Hachem qui fait le shalom. C'est nous qui faisons le shalom. Avant, comment nous on fait le shalom entre Michael et Gabriel? Il dit oui. Il te dit parce que dans la Kabbalah, on t'explique le principe de Itaruta Diltata, Itaruta Dilela. Il y a le réveil d'en bas, le réveil d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, il y a des choses en haut qu'Akadosh Baruch Hu, il y a des projets qu'Akadosh Baruch Hu ne lance pas. En vérité, tout va venir d'Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu ne lance pas le projet. Il attend que toi, de ton côté, tu fasses un effort. Tu fasses un réveil d'en bas. Et après, lui va faire le réveil d'en haut. Je vais te donner un exemple. D'accord? C'est comme par exemple, tu as un parent qui a acheté un très grand cadeau pour son fils. Un très grand cadeau. Donc il a un réveil d'en haut, il a envie de lui donner le cadeau. Mais le cadeau, il le garde dans le placard, il ne le donne pas. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'il y ait un réveil d'en bas. C'est quoi le réveil d'en bas? Que le fils, il va venir, qu'il va lui amener une bonne note, qu'il va lui amener un sourire, qu'il va lui amener une bonne nouvelle. Un petit réveil d'en bas. Et on est dit en Kabbalah que le réveil d'en bas va attirer le réveil d'en haut. Ça veut dire que des fois, une petite action d'un enfant peut amener un tellement grand plaisir chez le parent que le parent va donner un cadeau qui est disproportionné par rapport au plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que le réveil d'en bas attire le réveil d'en haut. Ben, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a des projets, mais Akadosh Baruch Hu, avant de développer ses projets, il nous attend. Il attend notre signal. C'est nous qui donnons le signal à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ce qu'on va dire ici. Qu'en vérité, quand moi je donne la tzedaka, ce qu'il va expliquer ici, c'est que quand moi je donne la tzedaka, quelque part je suis en train de faire le shalom. Pourquoi? Parce que j'ai mon yetzara. Qu'est-ce qu'il me dit mon yetzara? Il me dit, attends, dis-moi, t'as de l'argent. Garde-le ton argent. D'accord? Et t'as ton yetzer tov qui te dit quoi? Qui te dit?
Donne
l'argent. Alors comment on fait?
Donne un peu.
Comment on fait? Alors tu vas faire un effort. Tu vas dire, je vais me casser. Je vais casser mon yetzarara et je vais faire un effort d'en bas. Et ben, il te dit comme ça. Il te dit, quand toi tu vas faire le shalom dans ton âme, ça veut dire que tu vas réussir à dire, je fais un effort, je donne la tzedaka. Donc, j'ai fait un réveil d'en bas. Pour moi, c'est peut-être une action insignifiante. Ça veut dire, j'ai dit, bon, pour Dieu, qu'est-ce que ça représente? J'ai donné une pièce de tzedaka, j'ai donné un billet. Qu'est-ce que c'est pour Dieu? C'est rien un billet pour Dieu. Tu dis, non. C'est comme le sourire de l'enfant. Que des fois, le réveil d'en bas, ça peut déclencher un projet d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner des choses. Il veut nous donner des grands projets, il veut nous donner des grandes bontés, il veut nous donner beaucoup de choses. Mais il attend qu'on lui donne le signal. Comment on lui donne le signal? Quand nous, on montre qu'on amène le shalom dans nos vies. Quand nous, on montre qu'on arrive à faire le shalom entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara et qu'on arrive à passer à l'action. Qu'on arrive à avancer. Et quand on montre ça à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu dit, ah, tu as fait le shalom en bas? Moi aussi, je vais faire le shalom en haut entre Michael et Gabriel et je vais me débrouiller pour te donner quelque chose. C'est ce qu'il veut dire ici. Ça veut dire, en vérité, quand on dit, Osé shalom, Bimromav, quand on dit que Osé shalom, Yiromav, que Dieu fait le shalom dans le ciel, c'est vrai que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le shalom, mais Akadosh Baruch Hu fait le shalom suite à quoi? Suite au travail de l'homme. D'accord? Donc c'est pour ça que l'Admor HaZaken dans cette lettre va beaucoup insister sur la tzedaka. Il va expliquer que quand on fait la tzedaka, on est en train de faire le shalom. On va rentrer dans les détails, il va expliquer pourquoi. Il dit, Leman de leit mle mi garme klum. Oula chayot roar shefalim. Il te dit comme ça, il te dit qu'est-ce que tu fais? Il te dit, quand tu vas donner la tzedaka, on va donner la tzedaka à un pauvre. Tu vas donner la tzedaka à quelqu'un qui n'a pas de quoi. D'accord? Selon la Gemara, quand tu donnes la tzedaka à un pauvre, tu le fais revivre. Si tu dis que tu le fais revivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, avant, il était mort. On est d'accord? C'est ce qu'on dit que la Gemara, elle dit qu'un pauvre est considéré comme un mort. Parce qu'il est tellement pas bien dans sa peau, qu'il se dit, je préfère mourir. Donc quand tu lui donnes la tzedaka, quand tu lui montres que tu lui donnes de l'attention, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais revivre. C'est comme si que tu as fait le shalom, si tu veux, entre cette personne et la vie. Cette personne-là, il voulait se détacher de la vie. Et toi, quand tu as donné du goût à cette personne à la vie, c'est pour ça qu'on explique dans le Shulchan Aruch, que quand on parle du chesed, c'est pas seulement donner de l'argent. Ça peut être même, par exemple, rendre visite à quelqu'un. Et qui a de l'argent, qui a beaucoup d'argent, mais qui a pas d'amis. Ses amis l'ont oublié. Tu vas lui rendre visite. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette personne-là? Cette personne-là, comme il avait pas d'amis qui lui rendaient visite, était considéré comme un mort. Comme un pauvre en ami, donc il est mort. Toi, quand tu lui as donné de l'amitié, qu'est-ce que tu lui as donné? Tu lui as redonné la vie. Tu as renoué, tu as fait le shalom entre lui et la vie. Et c'est ça, comme ça, quand je montre le signal à Kadosh Baruch Hu, je dis, regarde à Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai réussi à faire le shalom entre cette personne-là et la vie. Cette personne-là, elle voulait plus de la vie. J'ai fait un effort, maintenant cette personne-là est contente de vivre. Donc j'ai fait le shalom entre lui et la vie. Il veut vivre maintenant, il est content de vivre. Et bien, à Kadosh Baruch Hu, il dit, toi, tu as fait le shalom entre cette personne et la vie, moi aussi, je vais faire le shalom entre Michael et Gabriel pour te donner quelque chose. Ça veut dire que très souvent, à Kadosh Baruch Hu, pour nous donner une bracha, il attend que nous, on fasse la même chose en bas. Mais ça va être en beaucoup... Nous, on va faire ça de manière beaucoup plus petite. je vais aller rendre visite à quelqu'un, je vais faire le shalom. Je vais faire le shalom entre lui et la vie. Ça peut aller très très loin comme ça. Ça peut être par exemple aussi quand on va faire le shalom entre deux personnes. La Gemara a dit qu'il n'y a rien de plus beau que de faire le shalom entre deux personnes. Le shalom entre deux personnes, c'est magnifique. Et on dit que celui qui fait le shalom entre deux personnes, Akadosh Baruch Hu s'occupe personnellement de lui. Pour ça qu'on dit que Aaron à Cohen, Aaron, qu'est-ce qu'on dit de Aaron? On dit que Aaron à Cohen, sa force c'était qu'il était capable de faire le shalom entre les gens. Et on dit que tellement c'était beau ce qu'il a fait, que quand il est niftar, le Ham Israël a pleuré pour lui, les hommes, les femmes, tout le monde a pleuré pendant un mois. Ce qu'on n'a pas fait pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu c'était un dirigeant, il avait des ennemis Moshe Rabbeinu. Donc pas tout le monde a pleuré pour lui, par exemple les femmes n'ont pas spécialement pleuré pour lui. Mais Aaron, tout le monde a pleuré. Pourquoi tout le monde a pleuré? Parce qu'Aaron, il avait cette qualité de faire le shalom. Et la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit que celui qui est aimé par les gens, ça veut dire qu'il est aimé aussi par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Aaron avait quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce qu'Aaron a fait le shalom. C'est pour ça que dit la Gemara, il n'y a rien de plus beau de faire le shalom entre les gens. Si on sait, par exemple, qu'on a deux amis, deux collègues, d'accord, deux membres de famille, deux frères, etc., qui sont en guerre, et qu'on sait que on peut essayer de faire le shalom, mais c'est une galère, parce qu'on n'a pas envie. Vous savez, malheureusement, quand on se met entre deux personnes qui se battent, on a peur de prendre des coups. D'abord, c'est pas qu'on a peur, c'est on va prendre des coups. C'est sûr qu'on va prendre des coups. Parce que tu vas devenir le punching ball des deux côtés. Parce que quand tu te mets entre deux personnes qui se battent, bah forcément, tu prends un coup, tu prends des coups de poing. Donc c'est difficile. Tu dis, attends, pourquoi tu veux me prendre la tête? Je t'en prie. Laisse-les se débrouiller, bah tant pis, qu'ils se débrouillent. Je veux pas me galérer parce qu'ils sont en galère. Bah on te dit non. On te dit que quand tu fais un effort pour faire le shalom, c'est un effort parce que si tu prends que je me prenne la tête, ils ont qu'à se débrouiller. Quand je fais un effort pour faire le shalom parce que je pense que je suis capable de le faire, eh ben, Kadosh Baruch Hu, lui aussi, va s'arranger pour faire le shalom personnellement entre l'ange Michael et l'ange Gabriel pour te donner ce que tu as besoin. D'accord? Ça, c'est la tzedaka. Quand on donne la tzedaka, de la même manière, on fait le shalom entre une personne et la vie. Quand on fait le shalom entre deux personnes, on pousse Akadosh Baruch Hu à faire quelque chose. Il y a plusieurs exemples que l'Admor HaZaken donne sur ça. On avait vu un exemple dans le chapitre 52, il donnait un très très bel exemple. Il donne deux exemples. Premier exemple, c'est l'effet levier. Vous savez ce que c'est l'effet levier? C'est quoi l'effet levier? Ça veut dire que c'est quoi l'effet levier? L'effet levier te dit qu'avec un petit peu de force, avec un petit truc, voilà. Donc avec une petite force, tu vas réussir à lever des masses. Tu peux lever des milliers, tu peux lever des dizaines de tonnes. D'accord? On le sait ça. D'accord? Qui c'est qui disait donnez-moi un levier, je pourrais lever la terre? Qui c'est qui disait ça? D'accord? On le voit d'ailleurs. Tu vois quand on lève une voiture par exemple, tu vois que c'est l'effet levier. Avec un rien du tout, on peut te lever quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple que donne l'Admor HaZaken, c'est l'ombre. Avec ces deux, c'est quoi l'ombre? On voit que quand tu as en bas l'ombre qui bouge, d'accord? Imagine, vous savez, on a l'ombre du soleil. Quand tu as l'ombre qui bouge ici, si l'ombre, elle a bougé ici de 1 cm, ça veut dire qu'en haut, le soleil a bougé des milliers de fois plus. Qu'est-ce qu'il veut montrer avec ces deux exemples? Il veut montrer avec ces deux exemples la chose suivante. Que nous, des fois, on démarre avec une petite action. Et ça peut nous paraître tout petit en bas. Comme l'effet levier. Tu dis, mais c'est rien du tout. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien du tout. C'est un levier, c'est rien du tout. Pareil pour l'ombre. Tu dis, l'ombre, mais ça a bougé d'un millimètre. En vérité, quand toi, t'as bougé d'un millimètre ici, ça a bougé des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres, le soleil, il a bougé. L'Admor HaZaken, dans le chapitre 52 du Tanya, il amène ces deux exemples. 52, je crois que c'était, ou la fin du guerre de Tchouba, il amène ces deux exemples pour démontrer que jamais il faut négliger une petite action. Jamais il faut se dire, c'est une petite action, c'est rien du tout, ça vaut rien. Tu dis non. Toi, tu crois que c'est petit. D'accord? Mais il te dit, on voit avec ces deux exemples-là qu'une petite action peut avoir un effet énorme. Alors, l'Admor HaZaken, quand c'est intéressant parce que je crois que quand il a écrit son commentaire, on venait de découvrir récemment l'effet levier. En tout cas, on en parlait récemment.
Si déjà,
ah oui, il dit, il appelle Livir. Livir, il appelle ça.
L'effet levier, mais ça remonte.
Ça remonte très longtemps, mais on s'en servait pas spécialement. Ça veut dire que c'était pas quelque chose. C'était quelque chose qui était connu des physiciens.
Pour les pyramides.
Oui, justement. C'est des pierres qui pesaient des tonnes, c'est impossible. Ils arrivaient à les déplacer comme ça.
Comment ils les déplaçaient?
Alors, en tout cas. C'était pas Obélix,
en tout cas, l'Admor HaZaken, il parle de l'effet Livir. Donc, l'effet levier. D'accord?
C'est connu en bourse aussi.
Bien sûr. Donc c'est quoi l'effet levier?
C'est des très bonnes images en plus.
Bien sûr.
C'est pile poil ce qu'il fallait dire. Quoi. C'est
ah oui. C'est quoi l'image? C'est quoi l'image de l'effet levier? L'image de l'effet levier, c'est que toi tu bouges un tout petit peu, tu fais un petit truc qui t'a l'air de rien du tout. Mais en vérité, ça déclenche des choses extraordinaires. C'est très très fort. Ça peut te déplacer des montagnes. Ça peut te déplacer, de lever des choses extraordinaires. Et comme l'exemple de l'ombre, que tu bouges un tout petit peu, mais en vérité, c'est des milliers de kilomètres, ça bouge de l'autre côté.
C'est qu'on est maladroit, donc.
Ben, c'est, ouais, et ben, c'est ben, avec ça, il explique la chose suivante. Il te dit, avec ça, il faut jamais négliger l'importance d'une mitzvah, et jamais négliger la gravité d'une avéra. Des fois, quand on fait une mitzvah, on se dit, mais c'est rien, c'est une petite mitzvah, qu'est-ce que ça vaut? C'est rien du tout. Des fois, quand on fait une avéra, on se dit, mais je t'en prie pour Dieu, qu'est-ce du coup, c'est la petite avéra que j'ai fait? C'est rien du tout. Je dis, non. Avec ces deux exemples-là, on voit qu'avec quelque chose qui te paraît petit, toi, tu crois que t'as bougé d'un millimètre, mais c'est des milliers de kilomètres que t'as bougé. C'est l'ombre. Nous, on est l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quand tu bouges un tout petit peu, c'est des milliers de kilomètres que ça bouge. L'effet est énorme. C'est valable pour le mal, à plus forte raison que c'est valable pour le bien. Que quand nous, on fait le shalom ici-bas, eh ben, on pousse Akadosh Baruch Hu à faire le shalom. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour? Pas Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est écrit à Yom Kippour? Juste avant Yom Kippour, on doit faire le shalom entre nous. Pourquoi on fait le shalom entre nous? Pour pouvoir faire le shalom avec Akadosh Baruch Hu. On dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, il fera le shalom avec nous, il nous aura ce qu'on a besoin. Quel rapport entre les deux? Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de soudoyer Akadosh Baruch Hu? Du fil, t'as vu, on a fait la paix entre nous, toi aussi fais la paix. Bon. D'accord? Ça se fait pas. Et on soudoie pas Akadosh. Non, c'est pas soudoyer. C'est qu'en vérité, il y a cette notion qu'on a dit ici, du réveil d'en bas, le réveil d'en haut. Que des fois, Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Il veut nous donner, Akadosh Baruch Hu veut toujours nous donner. Mais il attend qu'on lui montre que on est prêt nous aussi à travailler. Donc on va faire un petit effort par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est un petit effort, c'est petit. Mais on montre à Akadosh Baruch Hu que voilà, on a donné du nôtre, on a fait un effort. Quand tu montres à Akadosh Baruch Hu que t'as fait un effort, Akadosh Baruch Hu dit, moi aussi je vais faire un effort de mon côté. Tu as fait le shalom de ton côté, moi aussi je vais faire le shalom de ton côté. C'est pour ça qu'on dit, les poskim disent que, les décisionnaires disent qu'une personne qui ne veut pas faire le shalom avec ses amis avant Kippour, Dieu ne fera pas le shalom avec lui. Dieu préserve. Bon, des fois c'est difficile, des fois ça prend du temps. Vous avez des gens qui disent, je veux pas faire le shalom, laisse tomber. D'accord? Une personne comme ça, on dit, je ne lui fais pas le shalom avec lui, parce que c'est dépendant, c'est interdépendant les uns des autres. Tu veux le réveil d'en haut, il faut avoir le réveil d'en bas. Quand tu as le réveil d'en bas, ensuite viendra le réveil d'en haut. Ça c'est une notion qui revient très souvent dans la chassidoute, le réveil d'en haut, le réveil d'en bas. On amène ça par exemple aussi à propos du mois de Elul. On dit que, le mois de Elul, les Rosh Hashanah Kippour et Sukkot, on a cette série du réveil d'en bas, réveil d'en haut et réveil d'en bas. J'explique. On a le mois de Elul, c'est le réveil d'en bas. C'est-à-dire c'est quand le Ham Israël, pour l'instant, il n'y a pas encore le Rosh Hashanah, ça n'a pas encore commencé, et nous on fait un effort de l'autre côté, on fait les Sklirot. Le réveil d'en bas. Ensuite, à Rosh Hashanah, c'est Dieu qui envoie un réveil d'en haut. C'est Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à nous. Et ensuite, avec ce réveil d'en haut, va avoir un autre réveil d'en bas, c'est la Simcha du mois de Sukkot. C'est-à-dire qu'il y a constamment cet ascenseur entre Akadosh Baruch Hu. C'est constamment. Seulement, la fête de Sukkot, c'est le moment où les fêtes de Tishri, on le sent ça très fort. Mais en vérité, toute l'année, il y a toujours cet effet d'ascenseur entre, on envoie un signal à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu répond, après on renvoie le signal à Akadosh Baruch Hu. Constamment, on envoie, on renvoie. Ben, c'est ça pour le shalom. Quand nous, on donne à Tzedaka, on montre le signal à Akadosh Baruch Hu. Alors, je voudrais finir avec ça pour aujourd'hui. On continuera à présenter la semaine prochaine. Je voudrais finir avec ça, que c'est en vérité exactement l'idée qui s'est passée à Hanouka. Ça, cette idée-là, cette notion qu'il y a un ascenseur entre Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est exactement ce qui s'est passé à Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Hanouka, ce qui s'est passé, c'est que les Bnei Israël, a priori, ils auraient pu s'en sortir comme ça. Parce que, pourquoi ils auraient pu s'en sortir comme ça? On n'a pas touché aux trois avérotes capitales. Dans tous les décrets que les Grecs ont fait, on n'a pas touché aux trois avérotes capitales. C'est quoi les trois avérotes capitales? Trois avérotes capitales, c'est Avodazara, l'idolâtrie, le meurtre et l'adultère. Trois avérotes capitales. Les Grecs n'ont pas touché à ces trois choses-là. Ça veut dire qu'alachiquement, les Hashmonaïm, les Maccabis, n'avaient aucune obligation d'aller se battre. Ils n'avaient aucune obligation.
Ah bon, si on touche ces trois choses, tu
tant qu'on touche pas ces trois choses, tu peux te laisser faire. Tu peux te laisser faire. T'as aucune obligation de te battre. Alachiquement, t'as aucune obligation de te battre. En tout cas, aucune obligation d'aller comme les Maccabis, d'aller presque du suicide. T'es une poignée de personnes contre une armée entière. Ils n'avaient aucune obligation. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'ils l'ont fait. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils ont montré, ils ont dit, nous, on va aller se battre contre les Grecs. Et on va aller de manière surnaturelle. On va dépasser la nature. On va montrer à Kadosh Baruch Hu, Kaviarol, on va montrer l'exemple à Kadosh Baruch Hu. On va montrer que nous, on va nous dépasser. Qu'est-ce qu'a fait à Kadosh Baruch Hu ? À Kadosh Baruch Hu, lui aussi s'est dépassé. À Kadosh Baruch Hu, lui aussi s'est dépassé. Lui aussi, il a fait un miracle qu'avec chaque Maccabi qui est parti, il y avait une armée entière qui partait d'anges. Maintenant, pourquoi je vous explique ça ? On raconte qu'après, le miracle de la fiole d'huile. D'accord ? Vous connaissez le miracle de la fiole d'huile ? Quand on est en train de battre Amigdash, il n'y avait que.
Pour un jour.
Il n'y avait que pour un jour. Ah, je vous pose une question. Non, attendez, non. Il y avait des fioles qui étaient impures. D'accord ? Et la seule fiole pure qu'il y avait, ça suffisait pour un jour. Maintenant, le Pnei Yoshua, il pose une question. Il dit, mais attendez. Il dit, il y a un principe. Ça rentre dans le marché aussi. Il dit comme ça. Il y a un principe qui dit que quand c'est pour la communauté et qu'il n'y a pas le choix, il n'y a rien d'autre, on a le droit d'utiliser les choses impures.
Ah bon ?
Oui. Par exemple, pour l'huile, on aurait pu. Donc il pose la question, il dit, mais c'est quoi tout ce miracle que Dieu a fait ? Il dit, mais on aurait pu utiliser l'huile impure, c'était cachère. C'était cachère, tant qu'on n'a pas d'huile, il n'y avait pas d'huile, c'est cachère. Pour le tibour, on a le droit. Alors pourquoi, prends-nous pas tout ce miracle ? Regardez la réponse, une réponse magnifique. Il dit comme ça. Il dit que les bénis Israël, quand ils ont vu comment Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à eux, et que c'était miraculeux, c'était tellement fort, et c'était tellement miraculeux, mais quand ils ont allumé la menorah, ils ont dit, Akadosh Baruch Hu nous a montré tellement de miracles que c'est pas possible qu'il nous a fait tous ces miracles pour qu'on allume la menorah avec de l'huile impure. Ils se sont dit, c'est sûr que Dieu, il va nous faire encore un miracle. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils étaient complètement dans une autre planète. Pour nous montrer quoi ? Pour nous montrer que Akadosh Baruch Hu, il joue sur la même planète que nous. Si nous, on la joue tranquille, on la joue calme, on la joue carré, Akadosh Baruch Hu, il sera carré avec nous. D'accord ? Ça, je voudrais dire, ah bah la menorah, bah, tu peux allumer avec de l'huile impure, c'est cachère. Mais si je montre à Kadosh Baruch Hu que je me dépasse, et que je fais quelque chose qui est dangereux pour moi, mais que je me suis dépassé, eh ben, Kaviarol, même à Kadosh Baruch Hu se dépasse. Et il va te faire un miracle qui était a priori pas nécessaire, comme le miracle de l'huile. C'est pour ça que ce miracle-là, c'est le miracle de Hanouka. Parce que ça nous montre que c'est un miracle qui n'était pas nécessaire. On aurait pu s'en passer, c'était cachère. On aurait pu allumer. Seulement quoi? Comme nous, les Hashmonaïm, comme le Ham Israël a montré, qu'on était capable de nous dépasser, et que bien qu'on n'était pas obligé à l'arriquement, quand même, on est parti pour se battre, parce qu'on ne pouvait pas supporter une telle situation, on a montré à Kadosh Baruch Hu qu'on s'est dépassé. À Kadosh Baruch Hu a dit, moi aussi je me dépasse. Et bien que le miracle n'était pas obligatoire, on aurait pu se débrouiller sans, vous vous êtes dépassé, moi aussi je me dépasse. Et exactement l'idée qu'on expliquait ici. Le réveil d'en haut, le réveil d'en bas. Il y a même des livres en Chassidout qui vont plus loin que ça, je finirai avec ça, qui disent que la relation qu'il y a entre Kadosh Baruch Hu et Israël, c'est comme un miroir. C'est comme un miroir. C'est-à-dire quand tu vas dans le miroir, si tu vois une grimace, c'est que c'est toi qui as fait la grimace. Si tu vois un sourire, c'est que c'est toi qui as souri. C'est exactement comme ça. Avec Kadosh Baruch Hu, c'est comme un miroir. Ça veut dire que la relation qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, c'est la relation qui nous rendra. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le réveil d'en bas va donner le réveil d'en haut. Donc, pour conclure ce qu'on a expliqué aujourd'hui, comment on pousse à Kadosh Baruch Hu Kaviyachol à faire le shalom en haut entre Michaël et
Gabriel.
Donc, entre le chesed et la gvoura pour nous donner, c'est quand nous, dans notre vie, on va faire le shalom. Quand nous, dans notre vie, on va faire le shalom, automatiquement, on va pousser à Kadosh Baruch Hu à faire le shalom. Et comme on a expliqué avec la menorah, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu aura le même comportement que nous. Si tu montres que tu es carré, il sera carré avec toi. Tu montres que tu te dépasses, il va se dépasser. Tu montres que tu te dépasses beaucoup, il va se dépasser beaucoup. Akadosh Baruch Hu aura la même relation avec nous que nous avec lui. Ça veut dire que c'est nous qui donnons le ton à Akadosh Baruch Hu. Ose Shalom Ibromav. Qui c'est qui décide le ton? C'est nous qui décidons le ton. Donc c'est très important qu'on explique ici. Et Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on reviendra. Il expliquera comment, quand on donne la tzedaka, il y a plusieurs manières de donner la tzedaka. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Il expliquera qu'il y a l'action de la tzedaka. Il y a le travail de la tzedaka. Ça, c'est la semaine prochaine. Très intéressant. Il va expliquer comment en vérité, l'action de la tzedaka, le travail de la tzedaka, dans un, on aura plus d'efforts que dans l'autre. Dans un, on va plus se mettre que dans l'autre. Et comme on a expliqué cette notion que la relation qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est une relation qui est toujours en symbiose, ça veut dire que c'est comme un miroir. Donc avec ça, on va expliquer comment ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, ça va dépendre de l'effort que nous, on aura fourni. En tout cas, nous, ce qu'on comprend d'ici, c'est que Kadosh Baruch Hu ne donne jamais rien sans rien. On doit montrer, c'est nous qui donnons le ton de la relation avec Kadosh Baruch Hu. Et comme le ton qu'on a lancé, c'est comme ça que ça va se passer. D'accord ? Donc espérons que Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous donne les forces comme à Hanouka, que si nous on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on se dépasse, et ben Kadosh Baruch Hu, lui aussi il se dépasse, il va faire des miracles qui ne sont même pas nécessaires. Comme la menorah, c'était pas nécessaire. Comme les Hashmonaïm, c'était pas nécessaire. on aurait pu s'en sortir comme ça. Mm-hmm. Et ben si on montre à Kadosh Baruch Hu que nous on se dépasse parce qu'on n'accepte pas que ça soit comme ça, et ben Kadosh Baruch Hu lui aussi il va se dépasser mais rattaché. Voilà. D'accord. Donc on est encore en plein milieu, il faut qu'on continue ça, on continuera ça la semaine prochaine.